Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alexandre Niyungeko.
Merci d'écouter la radio Inzamba. Agathe Kakawe, bienvenue mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs de la radio Inzamba. Agathe Kakawe dans ce journal, dont voici d'abord les principales articulations. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, se dit favorable au dialogue avec n'importe quelle force vive de la nation burundaise pour discuter des problèmes qui minent le Burundi. Il l'a dit hier dans une conférence de presse. Charles Nditije, qui dirige le parti Kona, non reconnu par le pouvoir de Gitega, estime que le vrai dialogue porterait sur des questions de sécurité pour permettre aux milliers de réfugiés de rentrer. La question de la pauvreté a été également évoquée dans cette conférence de presse. Evariste Ndayishimiye a recommandé à la population d'augmenter la production. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire, lui, penche du côté de la réduction du carburant dans les secteurs étatiques comme solution à court terme. Trois employés de l'hôpital Makamba, dont un infirmier, sont détenus depuis avant-hier. Ils seraient impliqués dans un dossier d'avortement. Voilà pour le sommaire. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Criminalité pour commencer ce journal. Un jeune garçon âgé de 9 ans, connu sous le nom de Fabrice Teriteka, originaire de la colline Gihororo de la commune d'Ogatara en province de Kayanza, est mort étranglé dans la soirée de ce mardi. Il a été tué par des gens non encore identifiés. Selon les informations en provenance de la colline Gihororo, le crime a été commis pendant l'absence de sa mère qui s'était rendue à la station de lavage proche du domicile. Le corps sans vie de l'enfant a été par la suite retrouvé dans une bananerie. La police dit avoir commencé des enquêtes pour traquer les auteurs du crime. Le président Evariste Ndayishimiye se dit prêt à dialoguer avec ses protagonistes sur toutes les questions qui hantent le Burundi. Il l'a annoncé hier dans un point de presse. Charles Nditije, président du parti UPRONA, dit que le vrai dialogue devrait porter sur des questions de sécurité qui permettraient aux milliers de réfugiés de rentrer au pays et à ceux qui rentrent de ne pas être persécutés. Plus de détails avec Vanessa Mohitek.
Dans la conférence de presse de ce mardi, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a annoncé l'ouverture du dialogue avec ses opposants politiques pour promouvoir le développement du pays.
Que ce soit Red Tabara ou autre groupe, le gouvernement est prêt à dialoguer avec n'importe qui pour essayer de trouver la solution à tous les problèmes qui puissent surgir. Supposons que parmi ceux qui viendront, vous y trouvez ceux qui ont décimé les membres d'une quelconque famille. Quand les victimes le voient en liberté, elles s'inquiètent et cela peut provoquer une justice populaire. Et c'est l'État qui en sera responsable. Aujourd'hui, la conscience de tous est de construire le pays. J'observe souvent ceux qui, auparavant, avaient une mauvaise langue, mais aujourd'hui, ils se disent qu'il faut s'atteler à la construction du pays. Même ceux qui sont en Europe, comment pensez-vous que ces politiciens rentrent? Nous avons d'abord dialogué, et pour vous dire que même si vous avez commis une infraction quelconque, vous devrez penser à rentrer, car dit-on dans l'adage Girondi, Gitogitabkiwabo.
L'annonce du président de la République est un pas en avant, selon Charles Nditije, président du parti IPRONA non reconnu par le pouvoir de Gitega. Mais a-t-il précisé qu'il y a encore du pain sur la planche?
D'un côté, nous saluons cette orientation, mais de notre point de vue, cela ne suffit pas. Pour qu'il y ait des discussions, des négociations, des échanges, il y a des préalables. Il faut d'abord qu'il y ait un environnement politico-sécuritaire favorable à ce type de dialogue. Il faut que la paix règne un peu partout dans le pays. Il ne faut plus qu'on entende ici et là des arrestations arbitraires, des emprisonnements arbitraires, des assassinats ciblés, des exécutions extrajudiciaires liées à l'appartenance ethnico-politique de ces gens-là qui sont arrêtés uniquement à cause de leurs opinions ou de leur appartenance ethnique. Cela n'est pas de nature à inciter les opposants extérieurs à rentrer au pays.
Pour parler d'un vrai dialogue, Charles Nditije trouve qu'il faut un calendrier, la liste des questions au centre du débat, le lieu de rencontre, un facilitateur, un compromis qui devrait par après être mis mise en application.
Il ne faut pas que le président ou le CNDD-FDD négocie avec tantôt celui-là, tantôt celui-ci, parce que celui-là ou celui-ci est fatigué par le long séjour en exil, les conditions de vie très, très, très difficiles. C'est un peu comme s'il acceptait de dialoguer avec ceux qui sont fatigués ou capitulent en quelque sorte. Ce dialogue devrait être porteur de résultats palpables. Il faut que le gouvernement accepte de négocier avec les coalitions des partis politiques, avec les associations de la société civile, qu'on crée ensemble un cadre de dialogue qui soit reconnu, qu'ensemble ils puissent discuter du cadre approprié pour ce dialogue, l'agenda de ce dialogue, les points à négocier avec un calendrier, un arbitre, une sorte de facilitateur qui puisse veiller à ce que parmi les gens qui dialoguent, il n'y en ait pas qui veuillent imposer leur point de vue et qu'ensemble puissions trouver les voies et moyens de sauver le pays qui est au bord de la catastrophe.
Jean-Lindy Tigé indique en outre que ce sera du moins facile du moment que le président lui-même a participé dans le dialogue du genre dans le passé. D'abord en tant que négociateur en rébellion et après en tant que délégué du gouvernement dans le dialogue avec le Palpé Hutu FNL.
Merci Vanessa. La pénurie chronique du carburant bondi est consécutive au manque de devises dans les caisses de l'État. Propos du président de la République ce mardi lors d'une conférence de presse. Évariste Ndayishimiye a enfin reconnu la faible capacité financière de son gouvernement. Pour le chef de l'État, les Burundais doivent apprendre à vivre dans les limites de moyens de l'État. Il propose comme solution l'augmentation de la production. On l'écoute.
Au Burundi, on n'a jamais fait de progrès économique pour avoir des devises. On se contente de vivre avec les faibles moyens dont on dispose. Les fonds qu'on utilise n'évoluent pas. Les besoins en carburant ont beaucoup augmenté, mais les devises ne suivent pas les mêmes proportions parce qu'il n'y a pas d'exportation. Il n'y a pas assez de carburant parce qu'il n'y a pas assez de devises. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut d'abord augmenter la production et exporter pour qu'en retour nous ayons des moyens d'importer. Mais le défi, quelle capacité d'importation du carburant avons-nous? Nous avons la quantité qui équivaut à nos moyens. Quand on n'a pas la capacité, on ne peut rien. Mais moi je vous le dis, si on s'y était préparé avant, on aurait suffisamment de devises aujourd'hui.
Le mouvement MAP Burundi Buhire se dit surpris d'entendre que le chef de l'État jette la responsabilité sur la population qui n'a pas su accroître la production. André Kuigizé, vice-président de ce mouvement d'action patriotique, indique que le gouvernement devrait plutôt s'inscrire dans la logique de trouver des solutions à la pauvreté de la population burundaise. MAP Burundi Buhire propose à court terme la réduction du carburant dans les services étatiques. Suivez André Kuigizé.
Tout le monde est au courant de cette situation. Mais ce qui est surprenant est que le chef de l'État semble mettre tous ses problèmes sur le dos de la population. Ce ne sont pas les populations évidemment qui sont responsables du manque de devises étrangères. Ce ne sont pas les populations qui sont responsables des hausses des prix de carburant sur les marchés internationaux. Ce ne sont pas les populations qui sont responsables du monopole détenu par certains importateurs de carburant. On se serait plutôt attendu à ce que le chef de l'État annonce des mesures que le gouvernement compte prendre pour juguler ces crises. MAP Burundi Buhire est évidemment préoccupé par une telle attitude face à une crise qui s'annonce de plus en plus profonde si des mesures et des politiques claires ne sont pas prises. Et pour MAP Burundi Buhire, il faut rapidement prendre des mesures sociales urgentes, notamment faire en sorte que les prix de carburant soient maintenus à un niveau abordable compte tenu du pouvoir d'achat de la population. Le gouvernement devrait aussi prendre des mesures de moyen terme pour réduire la consommation de carburant, notamment par les services étatiques. Enfin, il devrait prendre des mesures de long terme pour accroître la production agricole nationale, pour substituer les importations par les productions locales.
Inzamba. Un infirmier de l'hôpital Makamba et deux autres employés de cet hôpital sont en détention depuis ce lundi 9 mai 2022. Ils sont soupçonnés d'être complices dans une affaire d'avortement et d'enterrement en cachette du corps de l'enfant. Depuis ce mercredi, le directeur de l'hôpital et le directeur administratif et financier sont en interrogatoire sur le cas. Le point avec Benny Axelakan.
Eliezer Naïgombeye, un infirmier de l'hôpital Makamba, deux travailleurs de ce même hôpital et une fille qui a avorté la nuit de samedi à dimanche ont été arrêtés par la police du commissariat de Makamba depuis ce lundi. La fille qui a avorté un enfant de 7 mois a révélé qu'elle l'a fait sous la complicité de cet infirmier de l'hôpital Makamba, Eliezer Naïgombeye. Il serait par ailleurs auteur de la même grossesse de la domestique de 19 ans. Les travailleurs, quant à eux, sont accusés d'être complices, car au lieu de conduire le corps sans vie du bébé mort-né dans la morgue, ils l'ont jeté dans l'incinérateur des déchets médicaux, sur injonction d'Eliezer Naïgombeye. D'autres infirmiers de cet hôpital ont comparu ce mardi au commissariat communal de police pour être interrogés. Eliezer Naïgombeye est connu pour être un membre influent du parti CNDD-FDD à l'hôpital de Makamba. Ses collègues l'accusent d'être l'auteur des montages à l'endroit des membres du personnel qui ne sont pas du parti au pouvoir. Les employés de l'hôpital Makamba demandent que des enquêtes indépendantes soient menées pour établir des responsabilités.
De la province de Makamba, rendons-nous à Bujumbura, précisément dans le centre de santé de Kanyosha où on signale des cas de vol. Les employés de ce centre accusent le titulaire d'être impliqué dans ces vols. Il est accusé notamment d'utiliser une moto de ce centre de santé pour ses intérêts propres. Ses employés demandent au ministère de tutelle de résoudre le problème pour l'intérêt public. Le point avec Georges Nimenya.
Les informations que nous détenons de la part de nos sources à Kanyosha indiquent que ces cas de vol ont été observés à des moments différents. Des matériaux ont été d'abord volés et les travailleurs se lamentent comme quoi aucune enquête n'a été faite pour connaître les voleurs. Ils accusent plutôt le titulaire du centre de santé d'être impliqué. Écoutez ce témoignage.
Un matelas a été volé. Il a envoyé une sentinelle pour prendre le matelas. Une infirmière qui était à la garde lui a demandé où il allait avec le matelas. Il a répondu que c'est le titulaire qui lui a demandé de le lui apporter. L'infirmière a téléphoné au titulaire pour lui demander si c'était lui qui avait commandé le matelas. Il a accepté. Longtemps après, un autre matelas a été volé. Lors d'une réunion de travail, le titulaire a dit qu'un matelas a été volé. Les travailleurs lui ont demandé de faire une enquête, mais cette enquête n'a jamais eu lieu.
D'autres objets volés, ce sont des batteries qui servaient à éclairer le centre de santé en cas de délestage. Les victimes, ce sont les femmes enceintes, car elles doivent accoucher pendant la nuit. 2 ans durera sans que le groupe électrogène de son centre de santé ne fonctionne.
La batterie du groupe électrogène est là aussi disparue. Non plus, aucune enquête n'a été faite. Puisque la coupure répétitive de courant électrique, les travailleurs ont exposé des problèmes auxquels ils se heurtent quand ils travaillent pendant la nuit. S'il s'agit d'une femme qui vient accoucher, il nous est difficile de faire correctement le travail. Le dispenseur a acheté une autre batterie. Depuis l'achat de la batterie, le groupe n'a jamais fonctionné. Quelques jours plus tard, il dit que la batterie a été, elle aussi, volée. Les veilleurs ont été exigés de payer la batterie. Mais le groupe n'a pas encore fonctionné depuis 2 ans.
Une moto récemment octroyée à ce centre de santé est utilisée pour d'autres fins au lieu de servir le centre de santé. Il demande au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida de se saisir de la question afin d'apporter une solution à ce problème, étant donné que ce centre de santé est agonisant alors qu'il avait été très bien coté à Kanyosha.
On nous a donné une moto de travail, puisque les motos taxis ne sont pas autorisées de circuler en ville ou dans certains quartiers. On avait pensé qu'il nous aidera à accéder à certains services dans l'achat des médicaments, surtout qu'elle porte la plaque d'immatriculation jaune. Actuellement, personne ne sait où se trouve la moto. Elle part très tôt le matin pour revenir la nuit. Si tu poses une question à moi, tu n'as pas de réponse. Mais selon le guide, la moto fait du transport monnayer. Nous avons porté l'affaire au chef du district sanitaire de Moura, mais aucune réponse n'a été donnée. Nous demandons au ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida de prendre la question en main, parce que le centre de santé de Kanyosha ne peut pas être perturbé par une seule personne.
La rédaction de la radio Izamba contactée par téléphone Janine Kéza Kabaganwa, titulaire du centre de santé de Kanyosha, pour qu'elle s'exprime par rapport aux accusations, mais sans fixer. Non plus, la chef de district sanitaire de Moura, Evine Diomeko, n'a pas été disponible pour répondre à nos questions. Son téléphone était hors du périmètre cellulaire.
Merci à Georges Nimenia pour toutes ces précisions et c'est par là que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous toutes, auditrices, auditeurs de la radio Inzamba Gatekakawe. Au revoir et à la prochaine.